Bonjour, c'est Attaque, Attaquoise, sur la radio RFM de Crépy-en-Valois. C'est donc notre quatrième rendez-vous pour une émission mensuelle. Je vais tout de suite passer la parole à Thierry Patinet, porte-parole d'Attaque et présidente Attaquoise, qui va vous formuler des vœux pour cette année 2022. À toi Thierry.
Salut Didier, donc bonjour à tous. Alors, comme on enregistre cette émission début janvier, de tradition, et puis sincèrement, on souhaite tous nos voeux aux auditeurs de RVM. Donc tous nos voeux, c'est santé. Santé aussi bien physique, bien évidemment, par rapport à cette saloperie de virus et toutes les autres maladies, mais également santé mentale, morale, de façon à ce qu'on ait la niaque pour affronter ensemble tous les défis auxquels on a à faire face, qu'ils soient écologiques, égalité sociale, etc., etc. Alors, il est évident que si vous écoutez en podcast cette émission début février, ce qui est possible, elle restera. Donc, ces vœux auront un petit caractère anachronique, mais ce n'est pas gênant, vous avez compris l'intention que l'on a. Donc Didier, vas-y, je te laisse pour le thème d'aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de la dette publique, éventuellement aussi un petit peu de la dette privée. C'est vrai que nous ne sommes pas forcément des économistes avérés et nous ne permettons pas de détenir la vérité. Notre but, c'est de vous informer, démonter un petit peu le discours médiastream qui est colporté par toutes les chaînes d'information. Et puis essayer de vous faire réfléchir et puis de vous donner un point de vue. Voilà. Alors, nous ne sommes pas non plus des uberlus. Hein. Nous recherchons des analyses, des notes. Nous regardons certaines émissions. Nous écoutons beaucoup la radio. Et donc, à partir de ça, nous essayons de vous construire une petite note de 30 minutes tous les mois. Donc, ce mois-ci, c'est la dette. Alors, pourquoi parle-t-on de la dette, Thierry ?
Alors, pourquoi on vous parle de la dette aujourd'hui ? Alors, si je reprends, par exemple, la deuxième émission, c'était novembre, je crois, octobre ou novembre, je ne sais plus, on avait parlé de l'évasion fiscale, donc on est sur l'ensemble des questions financières, parce que c'est un enjeu essentiel, avec comme idée force, et qu'il n'y a jamais eu autant d'argent de disponible, mais qu'il est très mal utilisé, et que, en plus, on aura besoin de beaucoup d'argent pour assurer les transitions écologiques et sociales. Donc, le fait d'y voir clair sur cette question de la finance est un enjeu citoyen pour tous. On vous avait parlé de l'évasion fiscale parce qu'à ce moment-là, ça a défrayé la chronique, les évasions via les Pandora Papers et tout le machin. Pourquoi on vous parle de la dette aujourd'hui ? C'est parce que ça fait partie du cycle. Et en plus, c'est un thème qui va être récurrent et qu'on a déjà vu venir dans la campagne électorale. Qui est un moment démocratique, même si, encore une fois, l'élection présidentielle, ce n'est pas le summum de la démocratie. Mais la question de la dette, et vous allez voir qu'il y a plein d'expressions qui ont été utilisées, mais Didier reviendra dessus derrière, c'est vraiment une question essentielle sur les choix qu'on va avoir à faire et sur son utilisation pour, en définitive, des politiques sociales ou des politiques d'austérité. Alors, pourquoi on vous parle de la dette ? Il y a quand même des éléments très précis. C'est parce qu'après la crise financière de 2008, les fameux subprimes, et la crise du Covid, le quoi qu'il en coûte, les dettes de tous les pays, donc pas que de la France, ont explosé. Donc, en même temps, c'est une réalité. Donc, on ne vous parle pas de n'importe quoi. Voilà. La deuxième chose, c'est que c'est un débat important dans la campagne électorale, ce que je vous ai dit. Et puis, c'est parce que le gouvernement et la droite... Alors, quand on dit la droite, on tient à repréciser qu'Attaque est une association d'éducation populaire. Donc, on est apartisan. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'examine pas les programmes politiques et les discours des uns et des autres, et qu'à un moment donné, il faut nommer un chat un chat. Et vous verrez très concrètement, alors essentiellement Valérie Pécresse, mais pas qu'elle, ça va de Macron à Le Pen, sur les questions de dette, ils ont un positionnement, ils ont une argumentation, et c'est ça qu'on cherche à démonter. Donc alors, le gouvernement et donc la droite veulent se servir de cet argument pour diminuer les dépenses publiques. Donc dans le débat qu'on aura avec Didier, on verra si diminuer les dépenses publiques, parce qu'il y en aurait eu trop, c'est un élément important. C'est continuer à favoriser leurs amis par des privatisations. Alors là, je prends l'exemple de Bolloré, parce que je pense que tout le monde a suivi un peu ses pérégrinations et comment il rachète toute la presse, et qui est un ami personnel d'Emmanuel Macron, notre président. Et donc, in fine, ce serait pour mettre en place de nouvelles politiques d'austérité qui vont encore aggraver les inégalités. Donc c'est par rapport à ces enjeux-là qu'on a choisi le thème de la dette.
Alors, effectivement, ce thème de la dette, ce n'est pas simplement qu'un problème économique. C'est aussi, si on peut dire, un problème sémantique et philosophique pour moi. Parce que la façon dont on en parle, tout à l'heure tu as dit « il faut appeler un chat un chat ». Je pense qu'il faut savoir de quoi on parle quand on parle de la dette. Et je pense que là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de faux amis ou de mensonges carrément. Hein. Alors par exemple, vous vous souvenez tous que notre monsieur Fillon, le monsieur des costumes, avait dit « je dirige un État en situation de faillite ». Bon. Moi, je me souviens ici. Il y a d'autres termes qui reviennent assez souvent. Hein, il faut absolument rembourser la dette. Hein. Un bon père de famille, on doit gérer notre État comme un bon père de famille. Et puis, comme tu l'as dit, l'État est trop dépensier, il a trop dépensé.
Bon, il y avait aussi les caisses sont vides.
Il y a tout un truc. On laisse aussi à nos générations futures un fardeau extraordinaire.
À nos petits-enfants.
Bon, alors on va essayer de démonter un par un tous ces discours-là. Et puis, est-ce que ce n'est pas un peu trop alarmiste? Est-ce que c'est vraiment justifié de parler de ça? Alors, déjà, un État doit-il s'endetter, Thierry?
Alors, comme on en parlait quand on est venu ensemble en voiture avec Didier, là, on voyage ensemble, il y a un proverbe qui dit « moi, je préfère être riche et bien portant que pauvre et endetté ». Bon, voilà. Donc, que ce soit... un des éléments qu'on va démonter tout de suite, c'est bien faire la différence entre un endettement privé personnel, celui des ménages par exemple, nous, le commun des mortels, et l'endettement d'un État. Ça n'a strictement rien à voir, alors que justement ceux qui veulent nous faire avaler le fait que la dette, c'est un problème essentiel pour les générations futures, cherchent justement à faire une analogie entre les deux. Donc c'est quelque chose qu'on doit démonter. La deuxième chose, c'est que j'ai oublié ta question.
Alors pourquoi un État doit s'endetter? Est-ce que c'est normal coûter? Alors, est-ce que c'est normal qu'on se retrouve avec une dette qui correspond
à... Voilà. Alors s'il n'y avait pas... Donc par rapport au proverbe que je viens de donner, s'il n'y avait pas d'endettement, ce serait plus favorable parce que un jour ou l'autre, ça nous rend toujours un petit peu plus fragiles par rapport à nos créanciers. Il y a toujours un mécanisme qui fait qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et le principe, je vous donne déjà la réponse, c'est que les taux d'intérêt peuvent augmenter. Bon,
mais un État qui ne s'endette pas, est-ce que ce n'est pas un État qui n'a pas de projet finalement?
Alors non, parce qu'on le verra, la dette résulte en définitive d'une conjonction de plusieurs phénomènes. C'est fondamentalement, et on revient toujours sur la question du budget de l'État, le budget de chaque année, la dette, c'est l'accumulation des déficits de chaque année. Pourquoi il y a des déficits? Soit parce qu'on dépense trop, soit parce qu'il n'y a pas assez de recettes.
Okay.
Voilà, on tombe
donc
toujours
ça,
sur les mêmes choses.
Là-dessus.
Et on aura une prochaine émission, ce sera celle de février, qu'on va fixer et qu'on va centrer sur les questions de fiscalité et d'imposition. Et vous verrez que du point de vue de l'analyse d'attaque, c'est le problème central. Donc, comme il n'y a pas assez de recettes et que l'État est obligé, quel que soit l'État, d'ailleurs, au sens gouvernement, Jospin, Sarkozy, Hollande, et Emmanuel Macron, ils sont obligés d'avoir un minimum de dépenses d'investissement, de dépenses de fonctionnement, de dépenses sociales. Et donc, de toute façon, il y a des dépenses indispensables. La période dans laquelle on est, c'est qu'il faut qu'il y ait des investissements beaucoup plus importants sur les transitions écologiques. Donc il y a besoin d'une masse financière énorme. Donc est-ce qu'il faut dépenser plus ou utiliser différemment l'argent existant ou créer de nouveaux impôts, en particulier pour les plus riches? Ce sera la position qu'on développera, puisque on avait abordé cette question-là dès la première émission, fin du monde, fin du mois, même combat. C'est que la question des inégalités est une question centrale dans les problèmes auxquels on a à faire face, que ce soit des problèmes sociaux, démocratiques, et y compris les questions écologiques. Donc, la dette...
Donc, résumons, la dette, ce n'est pas forcément un problème. On est bien obligé d'en avoir parce qu'il faut bien financer la transition écologique et d'autres systèmes sociaux, etc. Pardon, j'étais peut-être un petit peu loin du micro. Alors, si je veux revenir à mes petits points là, qui sont, nous comparons la dette publique à la dette d'un ménage. Mmh. Et je voulais juste donner un petit truc là que j'ai trouvé dans un bouquin de Thomas Porcher qui s'appelle Traité d'économie hérétique. Voilà, un ménage avec un revenu de 32 000 euros par an. Bon, c'est quelque chose d'assez moyen. Il va faire un crédit immobilier pour un logement, par exemple, à hauteur de 200 000 euros. Donc, son PIB, le fameux PIB, c'est 32 000 euros. Ce sont ses revenus à l'année. Et sa dette, elle est 200 000 euros. Donc, si on fait le ratio dette sur PIB, on arrive à 6,25, c'est-à-dire 625%. Est-ce que quelqu'un lui a déjà dit « mais c'est complètement aberrant, quoi que ce soit ». Non, pratiquement n'importe quelle banque va lui prêter. Et elle va lui prêter pourquoi ? Ben parce qu'il a des revenus et qu'il pourra rembourser chaque mois le capital et les intérêts de cet emprunt. Et ces remboursements de capital et d'intérêts seront plafonnés à 30-33% de ses revenus. Mmh. Et voilà comment on peut comparer. Alors, si je compare à l'État français, ben, la dette comparée au PIB, elle est de 110-120% en ce moment.
115% à peu près, 100, oui.
Voilà. Et puis, ben, ces remboursements tous les mois, ça équivaut à 4-5% et parfois moins, puisque les taux d'intérêt sont très bas. Donc, comparer la dette d'un ménage et la dette publique, c'est complètement aberrant. Voilà, ça ne veut rien dire. Et puis surtout, ça fausse totalement la comparaison. Et ça, c'est très critiquable de la part de nos dirigeants.
Alors, ce n'est absolument pas comparable parce que, contrairement à un ménage, l'État a la possibilité, un, de lever l'impôt, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de modifier complètement...
d'augmenter les recettes.
D'augmenter les recettes, voilà, tout à fait. Et puis, contrairement à un ménage qui peut éventuellement le faire avec son banquier, c'est que l'État, historiquement, tous les États de tous les pays... ont toujours, quelque part, fonctionné sur le système de la renégociation de la dette, ce qu'on appelle le roulement de la dette. Et par rapport, pour être précis sur les termes, ce que tu disais tout à l'heure, Didier, c'est que dans une dette, il y a deux choses. Comme quand on emprunte en tant que particulier, il y a le capital qu'on emprunte, et puis il y a ce qu'on doit payer en plus, les intérêts mensuels ou annuels, enfin peu importe, voilà. Concernant les dettes des États, en définitive, seuls les intérêts de la dette sont payés chaque année.
Chaque année. C'est ce qu'on appelle la charge de la dette, le service de la dette.
Voilà.
Et qui ne représente que les 4 ou 5% du PIB.
Et donc, très concrètement, il y a un autre élément qui rentre aussi dans le débat qu'il va y avoir au moment des présidentielles. C'est est-ce que la dette est soutenable ? Donc, momentané. Donc, vaut mieux ne pas être endetté. Mais la dette, ce n'est pas un problème. Et la dette peut être même un investissement très utile par rapport aux transitions qu'on a à mener actuellement. Donc, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, la charge de la dette, donc ce que l'État payait chaque année, c'était environ, en France, on arrondit toujours pour avoir simplement les ordres de grandeur, c'était 50 milliards. En 2022, il est prévu que ce soit 32,5 milliards. Donc ça veut dire que avec une dette...
plus importante.
Qui a doublé, puisqu'elle était à 60% avant la crise des subprimes en 2007, et elle est passée à 115%, donc on peut dire 120%, on peut dire qu'elle a doublé. L'État va payer... Donc, il va passer de 50 milliards à 32 milliards. C'est un élément alors qui peut être complètement fou. C'est-à-dire, plus on emprunte, moins on paye d'intérêt. Donc, pour expliquer ces mécanismes, tu me poseras des questions à un autre moment sur ces questions-là. C'est quoi ces marchés financiers? Mais quels sont ces prêteurs? Comment ça fonctionne? Etc., etc. On ne peut pas parler de tout en même temps. Simplement, non. Vous avez retenu que... en définitive, ça n'a rien à voir, en résumé, un ménage et un État, et que deux, on ne paye, en ce qui concerne l'État, donc la dette publique, uniquement les intérêts annuels.
Voilà. Okay. Alors, moi, je reste toujours sur mon couple, là, sur mon petit ménage qui est emprunté pour acheter son logement. Alors, comme on nous dit que l'État doit se comporter en bon père de famille...
Eh ben, oui, mais on est d'accord, c'est une connerie.
Oui, mais en même temps, ce bon père de famille, là, une fois qu'il a acheté ce... qu'est-ce qu'il lègue à sa génération future ? Il lègue un bien, il lègue un patrimoine.
À condition qu'il ait tout remboursé.
À condition qu'il ait tout remboursé. et à condition qu'il ait un enfant, bien sûr. Ah bah. D'accord. Mais en héritage, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il reste un patrimoine. Et bien, la France, c'est pareil. C'est patrimoine, c'est les hôpitaux, c'est les écoles, c'est des routes, c'est des transports, c'est peut-être aussi de l'immatériel, c'est des arts, etc. Donc, dire que la bonne gestion du père de famille, que l'État, quand il s'endette, ne correspond pas à la bonne gestion d'un père de famille, c'est aussi une connerie.
Alors, sur ça, donc, j'avais fait une petite recherche de mon côté. Pour être précis, c'est les idées qu'on doit retenir, les ordres de grandeur encore une fois, et les intentions, dès l'instant où on cherche à être honnête dans les informations qu'on donne. Donc ne pas se noyer dans les chiffres. Ceci étant, à un moment donné, quelques chiffres par rapport à ce que vient de dire Didier. Le montant de la dette en 2022 va être de 2760 milliards. 2700 milliards. Par rapport à ce qu'a dit Didier tout à l'heure sur les ressources d'un ménage ou les ressources de l'État, en 2021, donc une année avant, les ressources de la France, donc on a appelé le PIB, ce qu'on appelle le PIB, on restera là-dessus, on va pas approfondir, c'est 2500 milliards. Donc autrement dit, effectivement, la dette est légèrement supérieure aux ressources produites, donc au PIB. C'est pour ça qu'elle est à plus de 100%, elle est à 115%. Bien. Ce qui est important, c'est par rapport à cette idée de patrimoine que vient de développer Didier, c'est qu'il est important de mettre en relation cette dette avec le patrimoine de la France. Et le patrimoine de la France correspond à peu près à 16 000 milliards d'euros qui correspondent à 7 années de PIB. Donc autrement dit, on préfère le redire. Vaut mieux ne pas être endetté pour ne pas être dépendant. Mais la dette n'est pas un problème. Le vrai problème, ça va être pourquoi on est obligé d'emprunter. Et donc, c'est la question de la fiscalité. Et deuxièmement, si les rentrées, les recettes ne sont pas suffisantes, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'emprunter auprès de marchés financiers qui nous tiennent par la gorge après? Alors, et ça, c'est ça la vraie question.
Alors, c'est quoi ces marchés financiers? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement?
Alors, ça fait partie en même temps des revendications d'attaque, mais c'est des revendications au niveau politique au vrai sens du terme, c'est-à-dire faire qu'à un moment donné, le législateur change les règles du jeu. C'est pas à notre niveau de citoyen lambda qu'on peut, en allant voir son banquier, modifier cette chose-là.
Alors, on peut le réclamer.
Mais on le réclame parce qu'on a compris pourquoi c'était important de le réclamer et qu'est-ce qu'on veut à la place. Alors, d'un point de vue historique, avant, l'État empruntait auprès de sa banque centrale. Bon, on va le faire bref parce qu'il y a compris des... C'est pas tout à fait exactement comme ça que ça s'est passé. Mais en gros, en France, c'est en 1973 où ça a changé, où l'État a décidé de ne plus emprunter auprès de la Banque centrale de France. Et ça a été inscrit dans le marbre. Pour l'instant, je dis dans le marbre parce que le marbre est en train de se fissurer et ça va changer. Et ça va être aussi tout un débat autour de l'Europe et des règles budgétaires. Mais en gros, ça a été dans le traité de Maastricht, donc en 92. Donc le fait, très concrètement, que maintenant les États ne peuvent plus emprunter auprès de leur banque centrale, parce que les banques centrales, c'est ce que fait maintenant la BCE, donc la Banque européenne, banque centrale européenne, elle crée de la monnaie, pour financer l'économie réelle et tout ce dont
alors,
on a besoin.
Soyons honnêtes jusqu'au bout, pourquoi, il y a un moment, il y a eu ce basculement? C'est quoi la raison?
Alors la raison, il y en a plusieurs, mais globalement, c'était la volonté...
La raison invoquée, en tout cas, affichée.
C'était de ne pas rincer gratis et donc de ne pas favoriser l'inflation.
Ok, donc pour lutter contre l'inflation, on a décidé que les États ne pourraient plus s'endetter, c'est-à-dire aller chercher de l'argent auprès
quand
de la banque
centrale.
Quand ils
en avaient besoin,
C'est-à-dire créer de la monnaie,
voilà,
création monétaire. Et donc, aller chercher sur les marchés financiers.
Une des deux formes de la création monétaire, parce qu'il y a une autre forme de création monétaire avec les banques privées.
Hein. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on est allé sur les marchés financiers. Les marchés financiers, tous les États se sont retrouvés en concurrence, la France, l'Italie, etc. Les marchés financiers, alors c'est quoi ces marchés financiers-là? Parce que c'est très opaque, tout ça, pour les gens, là, ça ne veut rien dire. Ça.
Alors voilà. Donc,
eux, ce qu'ils connaissent, c'est la banque.
C'est quoi les marchés financiers? Alors, les marchés financiers, en gros... Les trois plus gros opérateurs, si on peut dire, sur ces marchés financiers, ce sont les banques privées, bien évidemment, ce sont les compagnies d'assurance et ce sont les fonds de pension. C'est quoi ces organismes? On a parlé dans la troisième émission des banques en France. On rappelle que les banques sont des institutions utiles, mais que leur fonctionnement actuel est un fonctionnement de voleurs. Voleurs, pas tellement vis-à-vis du petit épargnant qu'on peut être quand on a un dépôt, quoique avec le scandale des frais bancaires, c'est une forme d'arnaque énorme, mais c'est surtout des voleurs d'un point de vue... c'est une mafia internationale, puisque c'est un des mécanismes principaux pour organiser l'évasion fiscale dont on vous a parlé à la deuxième émission. Bon. Ce sont des organismes qui organisent l'évasion fiscale. Ce sont les fonds de pension, les gros patrimoines qui prêtent et qui après spéculent sur les dettes des pays. Ce sont ceux qui ont accumulé de l'argent justement en ne payant pas leurs impôts et l'évasion fiscale. Donc on est... Alors, je grossis le trait, bien évidemment, mais c'est l'idée qu'on doit retenir. Alors, on ne va pas aller faire la peau à son banquier. On est d'accord, hein ? C'est pas ça qu'on est en train de dire. Et tous ne sont pas exactement au même niveau de trempage de leurs mains dans ce type de magouille. Mais si on veut retenir l'idée principale, c'est que ceux qui nous tiennent par les nouilles, actuellement, c'est-à-dire ceux qui font pression sur les États pour « attention, si vous ne faites pas ce qu'on dit, on va augmenter les taux d'intérêt auxquels on vous prête, et dans ces cas-là, les États ne pourraient pas renégocier leurs dettes, puisqu'ils sont obligés de réemprunter au fur et à mesure. Ceux-là même, qui sont donc les marchés financiers, sont ceux qui ont accumulé ce pouvoir de nuisance en accumulant du capital, parce que globalement, en résumé, même si ce n'est pas tout à fait vrai pour tous les marchés financiers, ce sont des gens qui ont accumulé ces ressources, ces richesses, en organisant l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale, en ne payant pas leurs impôts. Donc c'est doublement scandaleux. Donc ce mécanisme fondamental, on ne peut pas le changer à notre niveau, mais tous les candidats aux élections présidentielles ne portent pas le même discours sur les nécessaires transformations des règles du jeu concernant la maîtrise des finances publiques, le rôle des banques, etc., etc. Et ce sont des questions vraiment essentielles. Donc les marchés financiers, Didier, c'était globalement un petit peu ça. Donc tu te demandes quelles questions tu vas me poser maintenant.
Ouais, non, c'est pas ça, c'est que je vois le temps qui passe et
d'accord.
J'ai un petit souci. Bon, alors, si on veut accélérer un petit peu et quand même finir notre émission sur la conclusion, tu parlais des dépenses. Est-ce que ces dépenses ont explosé en France? Est-ce que le discours qui nous dit que les dépenses publiques en France, les prélèvements obligatoires et tout ça sont très importants? Et puis, est-ce qu'ils ont augmenté au point qu'on était obligé de s'endetter un maximum? Alors, moi, je voulais quand même intervenir aussi là-dessus. Quand on dit qu'en France, les dépenses publiques sont plus importantes que dans les autres pays, c'est un peu normal, puisqu'on ne rend pas les mêmes services dans tous les pays. Pour prendre un petit exemple, dans certains pays, l'éducation n'est pas gratuite, elle est plus ou moins payante aux États-Unis. En Allemagne, il n'y a pas d'école maternelle, donc ce sont les gens qui payent. Les retraites, c'est pareil. Les retraites, pour l'instant, en France, c'est encore beaucoup par répartition et par cotisation sociale, ce n'est pas par capitalisation. Donc il est vrai qu'en France, effectivement, on a beaucoup de prélèvements obligatoires, puisque les services rendus sont beaucoup plus importants. Voilà, donc c'est tout à fait logique. Et ça, c'est un choix de société qui peut être discuté, mais en tout cas, c'est un choix de société et qui fait que les conséquences, c'est qu'effectivement, les dépenses publiques sont plus importantes. Mais, ceci dit, les dépenses publiques n'ont pas augmenté telles qu'on le dit dans tous les discours, Thierry.
Oui, alors, sur les dépenses publiques, c'est pareil. On pourrait faire une émission rien que là-dessus. Entre la dette publique, c'est l'État, les collectivités locales, les administrations locales et, globalement, la sécurité sociale.
L'UNEDIC, le chômage, les retraites, les pensions de retraite des fonctionnaires.
Voilà. Et puis, les organismes d'État du style CNRS, CEA, Météo France, etc. Mais c'est ridicule. La majorité de la dette publique, c'est la dette au niveau de l'État à plus de 80%. Alors, par rapport à ça, et pour répondre à ta question, c'est en gros, il y a cette dette, est-ce que c'est parce que l'État aurait trop dépensé depuis X années. La réponse, vous l'avez compris, au niveau d'attaque, même s'il ne faut pas dépenser n'importe quoi et diminuer la consommation, mais ça c'est un autre débat, c'est non, on n'a pas trop dépensé et du point de vue des chiffres...
On n'a pas plus dépensé, c'est surtout ça. On n'a pas plus factuellement, on n'a pas plus dépensé par rapport au PIB.
Oui, puisque, oui, mais c'est ce que je vais dire. Ça reste toujours à hauteur de 55%.
Le prélèvement obligatoire.
Les prélèvements obligatoires... c'est-à-dire à la fois les impôts et les cotisations sociales, restent à peu près à hauteur de 55% depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Donc il n'y a pas de modification majeure. Ce n'est pas cet élément-là.
D'accord. Donc si on n'a pas trop dépensé, c'est qu'on a eu moins de recettes. Ah ben, j'ai bien tout compris dans un budget.
Eh bien écoute, on restera sur cette idée-là pour terminer aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement la question de la fiscalité et des impôts. Ce sera le thème qu'on va aborder à la prochaine émission. Et là, en mettant peut-être un petit jingle, on voit simplement l'agenda de fin du mois, sauf si tu as deux, trois petites choses encore à rajouter. Parce que,
juste une petite info qui est d'actualité, parce que là, tout ça a toujours cours. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui a été créée... pour analyser ce que sont devenues toutes les aides publiques aux entreprises privées pendant la crise Covid. Donc, affaire à suivre. Et donc maintenant, passons à l'agenda après le petit jingle. Merci. Donc toujours monnaie, hein ?
Oui, oui.
Monnaie. Thierry, l'agenda.
L'agenda. Alors, un agenda spécifique à Attaquoise et puis un agenda plus général. Pour Attaquoise, parmi les différentes choses que l'on va faire dès le mois de janvier, il va y avoir une action contre, alors, je dis bien contre, oui, l'entreprise Amazon par rapport à tout ce qu'elle représente. Les personnes qui sont intéressées pour avoir des renseignements sur ce que l'on va faire peuvent nous contacter directement donc à oise@attaque.org qui est notre adresse mail. Autrement, quelque chose qui va se faire au plan national et sur laquelle on appelle vraiment, même si ce n'est pas notre prérogative, puisque ce sont les organisations syndicales qui sont à l'origine d'une journée nationale d'action. Alors je ne sais plus si c'est le 25 ou le 27 janvier, mais de toute façon on va en entendre parler. C'est une très grosse journée d'action, de manifestation et de grève, essentiellement sur les salaires. Et effectivement, dans le rapport capital-travail, par rapport à tout ce dont on a parlé, la question des salaires est une vraie question de la rémunération du travail. Et donc,
oui, puisque un salaire qui augmente, c'est une cotisation sociale qui augmente et c'est donc des recettes qui augmentent.
Voilà. Et puis ce sont des gens qui n'ont pas besoin de s'endetter.
Tout à fait.
À titre personnel. Voilà. Et donc voilà. Et ce sera également... en général, les conditions de vie, améliorer les conditions de vie. C'est très important parce que dans les médias dominants, tous les médias ne disent pas exactement la même chose et on ne peut pas les mettre tous dans la même... la même boîte enfermée, je ne trouve pas le mot exact, mais ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de luttes qui sont en train de se développer, même si elles sont à des endroits locaux, sectorielles, mais justement sur les salaires, sur les conditions de travail. Et on n'en entend pas suffisamment parler. Or, le fait que les gens, il y ait des mobilisations sociales, ce sera un élément essentiel pour que les choix de société qu'on va être amené à faire s'appuient sur des gens debout, éveillés, citoyens. Voilà. Et donc, on vous appelle à participer à cette journée du 25 ou 27, encore une fois. Vous irez vérifier. Donc, merci aux copains d'RVM pour cette émission d'aujourd'hui.
Merci, à la prochaine.